应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile accueille les images mi-amusantes, mi-sérieuses de l'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismäki avant d'être fracturée par le déstabilisant Split de M. Night Shyamalan. Et aujourd'hui en studio, les yeux et les voix de Maëlys, Pierre et Anastasia. Et on commence justement avec toi, Anastasia, pour l'autre côté de l'espoir. Bonjour.
Bonjour, ami. Eh bien, on retrouve dans le film L'autre côté de l'espoir deux histoires racontées en parallèle, celle de Wilkstrom, un Finlandais de 50 ans qui vient de quitter sa femme, et de Khaled, un jeune homme syrien qui demande asile en Finlande. Les deux héros sont en train de vivre de grands changements de leur vie, mais à l'échelle absolument différente. Leurs histoires se réunissent quand, un soir, Wilkstrom trouve le réfugié dans la cour de son restaurant.
Alors oui, la cour de son restaurant est plus exactement dans les poubelles, hein. il faut bien le dire. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Anastasia ?
J'ai beaucoup aimé. Je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. En tout cas, c'est pas le film que j'ai vu cette année qui m'a frappé. Il y en avait d'autres qui m'a frappé beaucoup plus. Mais celui-ci, c'est absolument quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Déjà, je continue à découvrir le cinéma national. Là, pour cette fois-ci, c'est le cinéma finlandais. Et j'ai beaucoup adoré l'humour des Finlandais, du réalisateur en particulier. Et je trouve que c'est un film assez fin et qui vaut certainement le coup de voir.
Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de finesse dans l'humour comme dans le reste. Mmh. C'est vraiment un très bon film et qui va bien plus loin que ce qu'on pourrait lui faire dire à premier abord. Et tu parles de cet humour assez typique, d'un certain humour nordique, très grinçant, très silencieux.
Un peu sévère.
Des personnages qu'on a l'impression qu'ils sont faits de cire un petit peu. Enfin, c'est très, très amusant. Et oui, vraiment assez caustique. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet humour-là.
À certains moments, cet humour va jusqu'au burlesque, en fait, et des fois grotesque, il me semble. Parce que, en fait, tu l'as dit tout à fait, on ne sait pas, en fait, exactement si on aura rire, ou si c'est un drame, ou si c'est une comédie, parce que c'est le mot, c'est le sens d'humour sur des choses qui sont finalement assez graves, mais c'est... moi personnellement je le trouve le même sens d'humour un peu chez les Russes aussi qui voilà on rit un peu sur ceux qui ont nous fait surprise.
Il y a aussi des tranches d'absurde total. Je pense le maître d'hôtel et le patron du restaurant qui sont accoudés contre le bar et qui échangent chacun une réplique de philosophie sur leur ontologie profonde et c'est tout et ça s'arrête là et c'est juste pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a d'un côté une violence qui est très drôle entre les personnages.
Ouais.
Les personnages qui leur rencontrent, ils se mettent chacun un grand coup de poing dans le nez. Enfin, il y a quelque chose d'une violence drôle et à l'inverse d'interaction sociale très feutrée, mais qui sont violentes, qui sont une espèce d'entrechoquement de personnalité. Mmh. Et c'est assez amusant. Quand je parle de violence drôle, je parle aussi de ces skinheads qui sont ridicules.
Mmh.
D'ailleurs, qui n'ont même pas d'action, parce qu'à la fin, ils tuent le personnage, mais le personnage ne meurt pas. Enfin, il y a quelque chose de très, très ridicule et d'absurde aussi dans cette espèce de dénouement.
Pour moi, il y avait aussi la violence froide de la loi, de l'autorité, des règles, voilà, autorités qui finalement sont beaucoup plus violents, juste parce que ils sont beaucoup plus, ils font pas d'exception à la différence des humains et des relations humaines sociales qui est très présente dans ce film. Et en fait, pour moi, c'était le film sur la question, bah, c'est assez évident, sur la question sociale, comment on peut vivre dans la société. Mais finalement, la réponse est là. C'est grâce à des relations humaines et à la présence des sentiments pour que la vie soit vivable, quoi. C'est absolument ça. Et du coup, oui, c'est à la fois les humains sont les êtres les plus violents. Et en même temps, ce sont les êtres qui peuvent se sauver. Et voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Je reviens sur ce que tu disais. C'est l'institution qui est extrêmement violente aussi. Il y a un montage assez terrible à ce titre-là. Quand le verdict dit nous avons... le ministère des Affaires étrangères juge que la situation n'est pas assez grave en Syrie pour que vous puissiez demander l'asile. Et juste après, le reportage télévisé sur les bombardements à Alep qui dit « Mon Dieu, quelle horreur !» Et je te rejoins sur la suite aussi, sur le fait qu'en effet, c'est la solidarité qui est la sortie de l'impasse, la fraternité en effet, et une fraternité qui, c'est là que c'est très intelligent, qui est à double sens. C'est-à-dire que ça n'est pas l'Européen gentil qui va aider le migrant en détresse, et on se demande même si ça n'est pas plutôt le migrant qui vient aider l'Européen, parce que le migrant disparaît complètement par sa fin, par la fin du scénario. Le personnage qu'on garde à la fin, c'est Wikström, c'est la Finlande.
Ouais.
Mais c'est une Finlande qui a réussi à se retrouver elle-même. C'est une Finlande qui a trouvé son avenir dans la coopération, dans l'acceptation de l'autre. Et Kauris Mäki peint avec un petit peu de cruauté une Finlande où les prix sont encore marqués en marque, alors que le pays est passé à l'euro depuis un petit moment. Enfin, qui montre une Finlande très très vieille. Mais qui justement trouve son salut, peut-être finalement, dans cet ailleurs qui vient à elle. Tout l'enjeu est aussi de comprendre cet étranger, et c'est aussi montré de façon très très drôle avec ce restaurant qu'il va tenter de transformer en restaurant japonais, plus vrai que nature, qui n'a plus rien d'authentique en fait, et qui montre bien tous ces espèces de clichés avec un Japon complètement fantasmé, et quand les vrais Japonais viennent, finalement, ils sont comme nous.
Bah oui, mais après il y a aussi, déjà le titre, il y a beaucoup de, on parle de l'espoir dans ce film, c'est assez évident, et déjà ça revient, déjà la première chose, moi j'étais un peu perdue dans le temps, je comprenais pas tout à fait dans quelle temporalité on se trouve, parce que au début j'ai eu l'impression que c'était les années 50-60, comme si on se retrouve dans le monde qui veut changer, qui va changer peut-être, mais finalement, en fait, il y avait aussi des... Moi, je sais pas, mais j'ai remarqué des trucs... il y avait la voiture de...
Extreme.
Oui, c'est ça, elle était... c'est une ancienne voiture, mais après, il y avait un Mercedes, genre, de nos jours. Et du coup, c'est un mélange, je crois que c'était fait quand même exprès, un mélange des temps, qui montre que finalement, s'il y avait des espoirs dans ce sens-là, parce qu'il y avait beaucoup de questions d'espoir, mais dans ce sens-là, si on se retrouvait au début dans le monde qui devait changer, qui voulait changer, finalement, on se retrouve avec les mêmes questions, parce que la question de la Syrie, il reste toujours là. En tout cas, la question de la guerre et des gens qui fuient, qui partent de leur pays à cause de la violence inhumaine, c'est la question éternelle. Et du coup, on se retrouve toujours dans cette situation et c'est assez ridicule.
C'est assez ridicule, mais il y a eu une création de fraternité entre les hommes qui les a tous permis d'avancer, malgré tout. Et il y a eu une rencontre entre des êtres humains. Et ce que montre bien ce personnage de Wikström, qui va retrouver sa femme, qui va revenir à ce qu'il est finalement, tout en ayant profité de toute cette expérience. Et ça, c'est un discours qui est vraiment très bien servi par l'esthétique du film, parce que je trouve que ces personnages... ont une humanité qu'on voit d'autant mieux qu'on a l'impression qu'elle est endormie. C'est-à-dire que ces personnages complètement raides qui parlent très très peu et qui du coup ressemblent un peu à des pantins, ben justement sur ces pantins, lorsqu'il y a quelque chose de vraiment humain, on le voit. Et c'est ça qui est très beau dans ces personnages. C'est comment réussir à faire transparaître l'humanité en enlevant toute la couche qu'on pourrait appeler la société, finalement.
Eh ben oui, tout ce qui est social, la communication, un peu dans, à la limite, bavardage. Et aussi, je voudrais revenir sur la question des sports au jour et la question de l'humanité, qui sont finalement très liées dans ce film. C'est pas seulement la question de sa vie, parce que finalement, il dit que pour lui, peu importe ce qu'il va devenir, c'est sa sœur pour laquelle il s'inquiète. Et voilà, ça, je trouve que je suis d'accord que c'est montré d'une manière très très belle.
C'est très très beau, d'autant plus que sa sœur est l'élément qui déçoit le spectateur, parce qu'en fait, sa sœur finalement, c'est une espèce de fantôme qui apparaît et disparaît aussitôt. Ce qui est beau, c'est sa recherche à lui d'une aide pour sa sœur.
Et c'est de Monsieur Poirel, mais oui.
Et ça en fait vraiment un très très beau film.
Et ben oui, je suis d'accord. Et du coup, j'invite tout le monde, chers auditeurs et auditrices, de voir ce film qui passe encore chez nos partenaires, les Cinémas Lumière.